à voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Jean-Marc Rochette. Ce soir, peindre la chair du monde.
Bonsoir Jean-Marc Rochette.
Bonsoir.
Depuis le début de cette semaine d'entretien, on a beaucoup parlé de dessin, on a beaucoup parlé de montagne. La peinture s'est invitée dans chacun de ces épisodes. Pourquoi ? Parce que vous êtes également et tout autant peintre, et ce depuis longtemps. Mais avant même de vous confronter à la toile, vous êtes un amateur de peinture. Dans votre autobiographie « Aile froide, altitude 3954 », on vous voit à deux reprises en ouverture du livre, puis plus tard vous plongez, enfant et jeune homme, dans la peinture de Soutine. Soutine, qui est une des personnalités du milieu artistique parisien de l'entre-deux-guerres, que vous représentez dans la Dernière Reine. Ça a été votre premier choc esthétique. Soutine, qu'est-ce qui vous possède presque chez lui ?
Alors, je sais pas comment c'est venu. Je sais qu'il y a un tableau qui est très connu, le bœuf écorché à Grenoble, donc je l'ai vu. Et je l'ai aimé. Je pense que je l'ai aimé aussi parce que c'est une œuvre qui est accessible pour un enfant. Si vous regardez le bœuf écorché de Rembrandt, un enfant va pas se projeter là-dedans parce que c'est un travail tellement extraordinaire techniquement qu'on va pas. Tandis que chez Soutine, il y a une espèce de corps qui parle, une espèce de joie de peindre, ou de joie ou de terreur de peindre, mais peu importe. Ça m'a plu. Ça m'a plu, et après, je me suis posé des questions sur ce personnage. Et alors, j'ai été fasciné par l'homme lui-même, quoi. Toute sa vie me paraît exemplaire.
Pourquoi ?
C'est quelqu'un qui est un marginal total. Il naît dans un village vers Vilnius, dans une famille juive orthodoxe. Et puis finalement, il quitte son milieu à jamais. Donc c'est déjà un arrachement, parce qu'il a peint le portrait d'un rabbin, et les enfants, c'est interdit par la loi, donc lui mettre une rousse suffisante pour qu'il puisse porter plainte devant la justice. Donc il a un peu un pécule pour aller prendre des cours à Vilnius, aux Beaux-Arts. Et là-dessus, il décide, attiré par Paris, avec des amis à lui, je crois, qui Coïn et quelques autres peintres, et ils arrivent à Paris avant-guerre, et là il connaît une misère absolue, et il continue à peindre, il lâche pas, et puis finalement il a une chance incroyable avec un collectionneur, Barnes, qui va chez Zombrowski, qui est le vendeur de Modigliani, et il veut même pas lui montrer les trucs de Soutine, parce qu'il passe plutôt pour un peintre alcoolique qu'autre chose, et ce Barnes voit ses tableaux, fasciné, en achète beaucoup. Ça le lance, il devient célèbre assez vite, et il continue à peindre des choses incroyables comme son bœuf écorché. C'est un sauveur de la peinture, en fait, dans une époque où on intellectualise la peinture avec Picasso, bien sûr, et voir qu'on la détruit avec Duchamp. Lui, il continue à chercher ses racines chez Rembrandt, chez Van Gogh, etc. Et je trouve ça très très fort d'éviter toute mode, en fait, continuer sur son action. Et puis finalement, la guerre arrive et ils peuvent tout à fait partir aux États-Unis, puisqu'il est connu, et il veut rester en France. Finalement, il est pourchassé, en tant que juif, il va se cacher, et puis il meurt en 44. Et on dit que derrière son corbillard, il y avait juste Cocteau et Picasso. Et voilà, donc ce parcours-là de vie, je le trouve admirable. Et alors après, je suis devenu un peu obsessionnel sur cet artiste, voilà. D'autant plus qu'après, il a inspiré des gens comme de Kooning et tout ça. C'est vraiment celui qui a tenu le flambeau, pour moi, de la peinture, quoi.
Dans votre livre, il y a un personnage que vous croisez sur la tombe de Soutine et qui vous fait remarquer que Soutine, c'est l'anagramme de...
Soutien. Et alors ça, c'est du Olivier Bocquet, ça. Ça, alors là, pour le coup, Olivier Bocquet a fait son travail de maïeutique et de psychanalyse, parce que j'avais jamais fait le rapprochement entre Soutine et Soutien. Mais dans mon cas, c'est vraiment ça. Quand j'avais des doutes, je pensais à cet artiste, et effectivement, je me disais, oh, s'il est passé à travers ça, je peux continuer, c'est pas très grave.
Alors, il y a eu Soutine qui vous a beaucoup marqué et accompagné, et puis vous l'avez déjà évoqué, vous avez développé très tôt une passion... pour l'expressionnisme allemand, une passion telle que vous étiez devenu un peu le spécialiste à Grenoble, et que même vos professeurs de dessin vous demandaient de raconter à vos camarades ce que c'était que l'expressionnisme allemand.
Oui, mon professeur, c'était Dessort, et qui m'a beaucoup aidé, qui prenait l'art très au sérieux. Et il m'avait demandé effectivement de donner un cours sur, sur l'expressionnisme allemand. Et bon, j'ai joué le jeu. Je pense que j'étais très timide. J'ai eu du mal à m'exprimer sur le sujet. Oui, c'est pareil. Là, c'est, pour moi, c'est faire un acte de courage. C'est-à-dire que des gens comme les expressionnistes allemands, que ça soit Georges Grosz, Otto Dix, voire Nold, ont peint dans une période quand même qui était extrêmement curieuse. D'abord 14-18, c'est souvent des anciens combattants, pour la plupart. Et puis après, la montée du nazisme, et ils sont restés la plupart du temps en Allemagne. Il y a eu une chose extraordinaire, c'est quand même, par exemple, Nold a été interdit de peindre. Non seulement il n'avait pas le droit d'exposer, mais on lui interdisait de peindre. Ça, il y a des gens qui, je sais pas comment on peut interdire à quelqu'un de peindre. Et tout ça, pareil, un peu comme Soutine, c'est une forme d'héroïsme artistique, hein, qui m'a fasciné.
Alors, ce qui est assez frappant chez vous, c'est que, alors c'est plus le cas maintenant, mais pendant longtemps, j'ai l'impression que la pratique de la bande dessinée et de la peinture n'ont pas été concomitantes, mais qu'elles ont été plutôt successives. Il y a un moment, je crois que c'était en 1987, jusqu'en 1994, vous arrêtez quasiment la bande dessinée pour peindre. Qu'est-ce qui fait qu'il fallait s'arrêter de faire ce pour quoi vous commenciez à être connu pour aller peindre?
D'abord, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu travailler à l'équipe pour des raisons X. L'équipe m'a contacté pour faire des dessins sportifs qui s'étaient très bien payés. Et donc, ça m'a permis de me libérer de la bande dessinée. Une bande dessinée qui était devenue peut-être un peu utilitaire chez moi. J'avais perdu le feu sacré dont on parlait du début avec tout l'underground américain. J'étais devenu, je faisais de la BD, quoi, comme beaucoup, quoi. Et ça m'a permis de sortir de ça. Et donc, j'ai pu commencer à me poser des questions sur la peinture et l'affaire en pratique. Et ça a duré pendant, effectivement, de 87 à 92, 94, quoi, où j'ai fait que ça, quoi. Mais je reprenais à zéro, en fait. Je me posais la question, qu'est-ce que c'était de peindre à cette époque-là? Pourquoi peindre? Et je me suis retrouvé dans une chose assez solitaire, et j'exposais pas, et j'avais l'impression qu'il y avait un secret à peindre. On finissait par atteindre une forme de vérité, je ne savais pas trop laquelle, en fait. Et dès que j'ai cherché jusqu'à ce que ça devienne un peu dangereux, en fait.
Pourquoi dangereux?
Parce qu'à se couper de tout et à peindre, comme vous avez vu dans le couloir, ces fameux tableaux gris, là, où j'avais l'impression que quelque chose allait apparaître dans ces tableaux gris, mais rien n'apparaissait dans les tableaux gris. Donc j'avais atteint un peu la limite de mon idée, quoi. Sur une peinture éventuellement magique ou je ne sais quoi, j'étais un petit peu. Il fallait que je retourne sur Terre, quoi. Et c'est pour ça que je suis revenu à la bande dessinée, quoi.
Parce que ça pouvait aller jusqu'à la folie.
Ça pouvait, oui, ça pouvait. On pouvait commencer à avoir des problèmes de rapport au monde, en fait, de rapport au réel. Par exemple, j'ai eu à un moment, j'ai eu effectivement une crise qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête, quoi. J'ai senti que le réel devenait. Il y a une nouvelle d'un bouquin qui s'appelle Terreur, et je conseille de la lire parce que il a très bien décrit, et ça, à mon avis, ça a dû lui arriver. Ce que c'est que perdre l'évidence naturelle. C'est-à-dire, les gens, l'habitude, ils sont là, l'existence leur paraît naturelle, les arbres leur paraissent naturels, la vie paraît naturelle. Et d'un seul coup, on se dit, qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce truc? Alors ça dépend de l'intensité, mais si c'est un peu trop fort, et donc Nabokov en parle particulièrement bien, ça devient une terreur, et on a vraiment envie de retourner au sol, sur le terrain des vaches, je sais pas quoi. Voilà. C'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai dit, ok, ça passe pas par là. Comme en montagne, la voie était pas bonne et j'étais arrivé dans une zone où je risquais de me faire mal.
Alors ça, c'était votre période grise. Il y a une deuxième période qu'on pourrait appeler la période bleue, voilà. Qui est venue d'une nouvelle rupture avec la bande dessinée, d'un départ à Berlin, où vous avez vécu de 2009 à 2016, je crois, dans un vaste atelier, ouais, sur la Seestrasse, pour ceux qui connaissent un peu la capitale allemande. Est-ce que c'est votre amour de l'expressionnisme allemand dont vous nous parliez, de la peinture allemande, qui vous a fait partir là-bas, Jean-Marc Rochette?
En grande partie. Par exemple, c'est vrai que c'est la peinture allemande et la peinture française. J'aime beaucoup la peinture paysagiste française, mais surtout la peinture allemande, je me sentais très attiré par ça, donc je suis allé. Il s'avère que Berlin était une ville qui était très peu chère quand j'y suis allé au niveau. Et aussi, j'avais un problème à Paris. Je commençais j'avais une forme de lassitude de cette ville et une forme de dépression qui était en train d'arriver. Et je me suis dit, il faut partir d'ici parce que ça va mal. Donc je suis parti en Allemagne, effectivement, en 2009, je suis resté 6 ans. Alors, au début, c'était étonnant parce que je me suis retrouvé à prendre des cours d'allemand avec les migrants de Syrie et tout ça. C'était très bien, en fait. Et je me suis mis à peindre et c'est revenu. Le plaisir de peindre, c'est revenu. L'énergie aussi est revenue. Et j'ai fait une grande série de tableaux, de grands tableaux qui font, pour les plus grands, font 2,60 m, ce que j'aurais jamais fait en France, quoi. Voilà. Et
pourquoi vous les auriez pas fait en France? Parce que c'est pas la même relation à l'espace, à Berlin.
J'ai pas la même relation à la peinture. Je veux dire, en Allemagne, il y a encore les derniers grands peintres européens, que ce soit Richter, bien sûr, Baselitz, Penck, et puis des jeunes, il y a une espèce de tradition allemande qui est restée dans une peinture, disons, active. Et alors qu'en France, je trouvais que la peinture française était beaucoup plus en demi-teinte, voire atone. Et malgré tout, on est tenu par un lieu, je pense, par un... Et donc, je me sentais proche de ça, enfin, de cette énergie, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'y suis allé. Et effectivement, autant la France est le pays de la bande dessinée, hein, quand on fait de la bande dessinée en France, on a une énergie qui est là, tellurique, mais beaucoup de gens... Alors qu'en Allemagne, par exemple, la bande dessinée n'existe pas, hein, c'est quasiment rien, quoi. Et la peinture, là-bas, a encore une existence. Un peu moins maintenant, peut-être, mais il y a une dizaine d'années, c'était encore très fort.
Parce que le paradoxal, c'est que c'est en vous éloignant de la France, mais aussi de vos montagnes, de vos Alpes, que vous, à Berlin, vous avez commencé cette série de portraits de montagnes. Comment est-ce que la montagne est revenue tout d'un coup et est arrivée dans votre peinture, puisqu'avant, vous l'avez dit, c'était ces monochromes gris dans lesquels vous vous perdiez?
Ben, il s'avère que quand on vit à l'étranger, quand on coupe les ponts, on peut se sentir extrêmement de chez soi, quoi, en fait. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'étais pas allemand, quoi. D'abord, la langue, je connaissais pas. Ce qui se passait en Allemagne, en fait, m'était assez indifférent, politiquement, à tout point de vue. Et puis, je me suis senti très français, et même pas très français, je me suis senti très dauphinois, en fait, ou très d'ici, de cette vallée, quoi. C'était ces lieux qui me parlaient. Après, il y a eu un musée à Échirolles qui m'a demandé de faire une exposition. Elisabeth Chambon, qui m'a demandé. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux bien faire? C'est Échirolles, c'est chez moi. Et donc, j'ai fait cette fameuse journée particulière. J'ai failli me tuer dans la façon d'elle froide. Et c'est comme ça que tous ces grands tableaux sont nés. Et après, j'ai vu que c'était mon intérêt. En fait, j'étais très proche d'une tradition de peintre dauphinois où t'as l'abbé Guétal, Ravier, etc. Et j'étais un paysagiste de montagne, abstrait. Si on veut, mais en tout cas, c'était ça qui m'inspirait. Et donc, je peignais des lacs de montagne à Zechstrasse, à Berlin. Là, il n'y a aucune montagne, c'est une ville extrêmement plate. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, tu ne peux pas rester là, tu ne vas pas mourir à Berlin, quand même. Il faut rentrer chez toi, quoi, maintenant, ça suffit.
Vous parlez de peinture paysagiste, mais il me semble que dans votre rapport au paysage, vous êtes plutôt... dans le domaine du portrait. Il s'agit plus de tirer le portrait quasiment d'une montagne que de l'envisager comme un paysage, c'est-à-dire comme un environnement.
Oui, j'ai un petit côté animiste. Les montagnes, on peut les voir comme des tas de cailloux, ou comme je vous disais, ou des structures avec des forces, mais on peut aussi les voir comme des esprits. Par exemple, c'est vrai que la bande dessinée, j'aurais tendance à les voir comme des structures. Et la peinture, on a tendance à chercher une forme d'esprit, quoi, quelque chose qui se passe. Pour moi, le grand intérêt de la peinture, c'est un peu ce que les Chinois nous ont appris. Quand on regarde les grands dessins de Shuta, par exemple, ils cherchent évidemment pas une ressemblance photographique, mais ils cherchent quelque chose qui serait derrière la glace du réel, quoi.
Mais derrière la glace, derrière la roche, il y a presque de la chair. Vous nous en avez parlé dans le premier épisode de ces Avoies nues. De cet accident où votre camarade se fait déchirer le bras par un de vos crampons, et on a ce sentiment effectivement de quelque chose de très charnel dans la montagne. Je crois que c'est Merleau-Ponty, vous le citiez, ouais, dans ce livre manifeste pour peindre le bleu du ciel, qui parle de la chair du monde. Et c'est ça que vous voulez atteindre par votre peinture?
C'est-à-dire que si on sent cette chair du monde qui irrigue à peu près toute chose, c'est-à-dire il y a en effet des mêmes atomes, des mêmes molécules, et il y a une espèce de loi, alors on peut l'avoir mathématique si on est du côté de la mathématique, mais on peut l'avoir aussi de manière spirituelle si on est plus de ce côté-là, qui unifie tout ça. Quand vous regardez un paysage, rien ne dénote. C'est-à-dire le ciel ne dénote pas avec l'aigle, qui lui-même ne dénote pas avec l'arête de montagne. Tout ça, il y a une espèce de grande cohérence. Alors on peut représenter cette grande cohérence par la photo, Et à ce moment-là, on se met dans une position où on va voir les choses, ou essayer de comprendre comment ça fonctionne en interne. Et là, on est plus proche de la peinture, c'est-à-dire comment la matière informe, prend une structure, voire peut-être charpentée par l'esprit.
Alors, cette cohérence dont vous parlez, on pourrait l'appeler harmonie. Il y a cette recherche-là aussi. C'est plus de l'ordre de la composition que de la matière même, mais vous recherchez ça manifestement dans votre peinture, Jean-Marc Rochette.
Oui, je me suis aperçu que quand on regarde la nature, il n'y a pas un point de vue où elle est laide. Cette harmonie, elle est partout, tout le temps et sur tous les axes de vue, quoi. Et donc, je me suis dit, en peinture, on doit pouvoir arriver à ça. On doit pouvoir à ce qu'un tableau soit toujours harmonieux. Simplement, il faut que les formes se répondent les uns aux autres sous l'égide de la nature elle-même, quoi. Et pour ça, il faut jouer dans le chaos, en fait. La nature joue dans le chaos, une forme de chaos qu'on croit chaotique, qui en fait n'est que ordre. Et alors évidemment, l'aquarelle est beaucoup plus facile à gérer parce que le chaos est inhérent par l'eau, par lui-même, donc on peut jouer là-dedans. Sur la peinture à l'huile, c'est plus difficile, comme tout le monde le sait, mais c'est jouer là-dedans. Et c'est vrai que c'est une chose qui me passionne. Et si je vis encore quelques années, j'aimerais m'y remettre, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous allez, pour le même sujet, pour une montagne, que vous allez la peindre à l'huile ou que vous allez l'aborder à l'aquarelle? Est-ce que c'est l'inspiration du moment, selon ce que vous voyez, la lumière du moment?
Je suis tristement classique dans la pensée classique de la peinture occidentale, l'aquarelle était une préparation à l'huile, en fait. C'est-à-dire commencer sur une matière qui résiste pas trop, l'aquarelle, et puis finalement on arrive à trouver son axe ou ce qu'on veut dire, et à ce moment-là on peut en faire une peinture à l'huile. C'est souvent ce qui se passe chez moi, je commence par une aquarelle, il y a des idées qui sortent de ça, après je fais des petits formats pour posséder ce moment, quand je pense que l'harmonie, je sais à peu près où je veux aller, je fais ça sur des très grands formats, en sachant qu'il y aura quand même des parts d'incertitude qui vont arriver, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs.
C'est-à-dire l'incertitude, il y a quelque chose qui va arriver malgré vous. Vous êtes dans quel état au moment où vous peignez, par exemple? C'est de l'ordre de la transe? Vous oubliez et qu'il se passe quelque chose que
non,
vous maîtrisez plus?
Non, je m'oublie pas au début, et puis petit à petit, c'est comme le tambour chamanique. Au bout d'un moment, on s'oublie, quoi. C'est-à-dire que au début, on veut contrôler les choses, on pense qu'on va y arriver, on pense qu'on a fait tout le travail en amont et que le tableau va se faire comme il doit se faire. Et puis une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit que c'est pas ça qui va se passer, c'est autre chose. Et donc il faut aller au point de rupture. Donc c'est un grand classique, mais il faut que le moi explose pour qu'on arrive à une œuvre à peu près intéressante, quoi. Sachant, je crois que c'est Matisse qui disait, on peut pas, chaque tableau impose sa logique. Un petit tableau n'est pas sous les mêmes logiques qu'un très grand format, quoi. Là, j'ai fait le dernier tableau que j'ai fait, ça s'appelle Automne à Tegelsee. Dans le couloir, il y a le petit format qui est très réaliste et qui fonctionne à peu près, mais ça marchait pas du tout en grand format. Ça devenait un espèce de décor de théâtre s'il était réaliste. Et donc, il a fallu exploser tout ça et que la matière donne à dire ce qu'elle avait envie de dire. Il faut se rendre à l'écoute de ce qui se passe sur le tableau, en fait.
Précisément, la matière, on la voit sur le tableau. C'est-à-dire qu'il y a le sujet, et puis il y a ce qui se passe avec la patte même et avec le mouvement. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que vos peintures de portraits de montagnes montrent des montagnes quasiment en mouvement, et comme si vous y aviez incorporé le temps long géologique qui fait qu'effectivement ces montagnes bougent, mais nous, à notre échelle d'humain, on ne la voit pas bouger.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans la matière elle-même, il y a des tempos de vie qui sont extrêmement différents. Un éphémère, c'est la journée, pour nous c'est 90 ans, pour la montagne c'est 2 millions d'années. Et comme la chair est la même, je pense que la finitude est aussi la même, mais ça prend plus de temps, quoi. Si dans un tableau je peux représenter cette espèce de temps long, ça m'intéresse. Enfin, j'essaye de rendre ça, quoi. Sachant que l'aquarelle est très intéressante parce que, en fait, finalement, le temps n'existe pas et que c'est finalement tout ce qui charpente tout ça, c'est la grâce, quoi. Qui, elle, à mon avis, connaît pas le temps, quoi.
Et puis, il est évidemment question de couleur quand on peint. Vous avez fait ce livre d'entretien avec l'écrivain Fabrice Gabriel, Manifeste pour peindre le bleu du ciel. Qu'est-ce qui est si compliqué, ou si beau, ou si fort avec ce bleu du ciel, Jean-Marc Rochette?
dans cette vallée, dans ces montagnes, il y a un bleu extrêmement profond, comme on l'a vu aujourd'hui, par exemple. Naturellement, on pense que le ciel est lumineux et que la montagne, elle, n'est que de la pierre et n'est que matière. Mais en fait, pour moi, je le vois exactement à l'inverse, en fait. Le bleu, je le vois comme une espèce de couvercle qui pose sur des montagnes qui, elles, sont très lumineuses. Gorgées de photons, en fait. Voilà. Donc, et il faut que ce bleu soit vivant, quand même. Il vibre. Il est très compliqué à rendre. Moi, je pense qu'on n'y arrive pas, mais parce que, en plus, ce qui le rend intéressant aussi, c'est ça, c'est son immensité, ça. C'est le fait que ça soit qu'on l'ait sur la tête. Un tableau, c'est à plat. Donc, déjà, ça, on est perdant. Et ce rapport, noir et lumière, dans ce bleu-là, c'est Robert Alexis, un ami écrivain, qui me disait méfie-toi de ce bleu, derrière il n'y a que les ténèbres. Et il a pas tort. C'est-à-dire qu'on peut voir le bleu comme quelque chose qui serait rassurant, il fait beau, mais derrière on voit bien que derrière c'est la nuit.
Alors je sais pas si c'est dû aux couleurs qu'il y a ici autour de vous, mais il y a pas beaucoup de jaune dans vos tableaux. Le jaune, c'est pas votre couleur.
C'est très. J'en ai fait un. J'ai fait un tableau sur un jaune, deux jaunes. J'ai fait le mûrier de Lucent, qui est au musée des Girolles, et j'ai fait un châtaignier aussi. Le problème du jaune, c'est que le maître du jaune, c'était Van Gogh. C'est une matière qui est très très difficile à gérer parce que elle supporte aucune contradiction. C'est-à-dire, si vous mettez un tout petit peu de bleu dans beaucoup de jaunes, ça deviendra un jaune sale, un peu vert, et tout. Donc c'est quand même une couleur extrêmement difficile. Je l'ai fait deux fois et c'est vrai que ça fait un petit peu peur, le jaune, parce qu'on peut partir vite dans le cacadois. Et donc il faut être très sûr de soi dans le jaune. Pourtant c'est une couleur magnifique. Là, l'automne va bientôt arriver et on sait très bien que tout le monde est fasciné par cette lumière, quoi.
Vous pensez à ceux qui vont éventuellement acheter vos toiles quand vous les peignez, ou vous êtes un peintre autarcique qui ne se préoccupe pas de cette question.
Très autarcique, et même, c'est vrai que mes grands tableaux, j'en ai donné quelques-uns à des personnes qui m'étaient proches, mais je crois que j'en ai vendu aucun, quoi, des grands tableaux. J'ai été acheté par des musées, mais j'ai du mal, en fait, autant les bandes dessinées, je suis un espèce de professionnel qui a aucun problème à vendre des originaux et des bouquins, autant la peinture me paraît être un acte assez personnel. Donc, je peux pas me considérer comme un peintre, parce qu'un peintre, c'est, pour moi, le prototype du peintre, c'est Rubens, par exemple, qui vendait ses œuvres à travers toute l'Europe. Et ça, c'est un peintre. Moi, je suis pas un peintre, je suis quelqu'un qui fait des expériences personnelles avec de la matière, quoi. Mais c'est vrai que je vends pas. Pour l'instant, je vends pas. Je cherche pas non plus de galerie. Vous les voyez ici. Il y en a à Paris. Et puis, de toute façon, je fais une expo. Puis voilà. J'ai du mal, en fait. J'ai du mal. Et puis, peut-être aussi que la bande dessinée me permet cette liberté. Parce que les lecteurs me font le plaisir de me lire en grand nombre. Et j'ai pas besoin de vendre.
Vous peignez pas que des montagnes. Vous peignez aussi des corps humains dans des sujets volontiers érotiques. Qu'est-ce qui s'y joue de semblable et de différent entre peindre un corps humain et une montagne? On l'a dit sur la chair du monde, mais je pense que le rapport érotique est aussi quelque chose qui se joue dans votre rapport.
La sexualité est quelque chose qui est inhérent à la nature. Ça, c'est la nature pure. Dans ce que j'ai fait là, j'avais fait un travail sur une sexualité une sexualité, disons, morbide, peut-être, parce que j'avais beaucoup d'affection aussi pour le peintre Belmer. Donc, cette relation au corps chez Belmer me fascinait aussi, donc j'ai voulu travailler sur ce sujet. Pour le coup, le sujet est extrêmement puissant, le sujet est tellement puissant qu'il a tendance à passer devant la technique elle-même. En plus, j'ai travaillé sur des couleurs, il y a du bleu, très sombre, du noir, et le corps. Ouais, c'est une série que j'aime beaucoup, en fait. C'est marrant, vous m'en parlez, mais je m'y attendais pas. Donc, oui, et je la montre peu aussi. Peut-être que j'en ferai un livre. Peut-être que j'en ferai un livre, mais avec, sur un tirage de sang, un peu, comme on faisait des
tirages d'artistes.
Des tirages d'artistes privés, ouais.
Alors, on en a un peu parlé hier, l'artiste femme que vous représentez dans La Dernière Reine n'est pas peintre, elle est sculptrice, sculptrice d'animaux. On l'a vu dans votre maison, il y a des sculptures aussi. Pourquoi ces sculptures qui semblent parfois presque la matérialisation de vos dessins et est-ce que la sculpture est une autre direction que vous, voilà, dans lesquelles vous voudriez vous engager, Jean-Marc Rochette?
Ben, la sculpture et la peinture, il y a beaucoup de peintres qui ont fait des sculptures. Hein. Il y a une espèce de prolongement naturel à la force de la... Donc, au début, j'ai fait quelques... Là, maintenant, je pense que l'année qui vient, puisque j'ai besoin, après cette bande dessinée qui m'a demandé beaucoup d'énergie, je crois que je vais travailler plus la sculpture, et en particulier la terre cuite, parce que je trouve que j'adore les terres cuites étrusques ou maya, ou tout ça, ça oblige à synthétiser les formes, et comme je vous dis, les animaux me fascinent. Donc là, je vais faire toute une série, je pense, sur les animaux qui m'entourent, un peu dans le bestiaire des Alpes, mais avec en volume.
Le bestiaire des Alpes, oui, c'est un livre de dessins, de portraits d'animaux que vous avez publié. On l'a dit hier, enfin on en a parlé hier, vous ne mettez pas d'hierarchie entre l'homme et l'animal. Est-ce que vous mettez une hiérarchie entre les formes d'art? Est-ce que, par exemple, vous placez la peinture au-dessus du dessin, ou pour vous, tout cela coexiste et est aussi important pour vous?
Non, chacun va à son niveau d'excellence. Je veux dire, si vous prenez un au Tibet, par exemple, c'est un pur chef-d'œuvre. La peinture, ça va de 0 à 100, et la bande dessinée, ça va peut-être de 0 à 70. Je m'exprime, c'est-à-dire que les meilleures notes en peinture, quand on voit du Van Gogh ou du Cézanne, c'est quand même, ça atteint la philosophie. Peut-être que la bande dessinée, on n'est pas encore arrivé à ce stade, mais la bande dessinée est un art jeune et qui a encore beaucoup à faire et à montrer. Je pense qu'on est au début de la possibilité de ce genre. Donc, je pense que par contre, la peinture, elle a montré sa puissance depuis longtemps, quoi. Donc, on arrive un peu en retard, quoi.
La bande dessinée a un art potentiel.
Je pense que la bande dessinée a un art potentiel énorme, ouais. Ouais. Et sauf que la bande dessinée, il faut être capable d'être un écrivain, il faut être capable d'être un peintre, il faut être capable d'être un poète, il faut être capable. Il y a beaucoup de genres pour faire de la bande dessinée. Et souvent, on peut être bon dans un, mais on peut plus faible dans l'autre. On est estimé, vous voyez ce que je veux dire.
Merci beaucoup, Jean-Marc Rochette, d'avoir passé cette semaine avec nous.
Merci.
Fin de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Jean-Marc Rochette. À voix nue, réalisation Benjamin Hu, prise de son Virginie Lorda, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.